VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Le Parlement rwandais a ouvert aujourd'hui la voie au maintien au pouvoir du président Paul Kagame au-delà de 2017 en soutenant sans surprise une pétition de quelques 4 millions de Rwandais pour faire sauter le verrou des deux mandats autorisés dans la Constitution. Sénateurs et députés se sont prononcés à l'unanimité dans leurs chambres respectives en faveur d'une réforme constitutionnelle. Des amendements devront cependant encore être votés, puis une nouvelle constitution formellement soumise à référendum à la population. Le président rwandais Paul Kagame, élu deux fois en 2003 et 2010, mais en réalité homme fort du Rwanda depuis déjà la fin du génocide des Tutsis en 1994, présente ses débats autour d'une réforme constitutionnelle comme émanant d'une pure initiative populaire. Au Burundi, le président ougandais Yoweri Museveni a entamé aujourd'hui à Bujumbura une délicate médiation dans la crise burundaise, entrée dans une nouvelle phase avec des combats armés au cœur de cette crise émaillée depuis fin avril de violences ayant fait plus de 70 morts d'un coup d'État militaire manqué et désormais d'affrontements entre armées et rebelles. La candidature du président Nkurunziza a un troisième mandat lors de la présidentielle du 21 juillet. Le convoi de M. Museveni, sous forte escorte ougandaise, est entré donc au Burundi via la province de Kirundo, à environ 200 km au nord-est de Bujumbura. Le président ougandais a été accueilli par le ministre burundais de l'Intérieur, Edoua Nduwimana, qui a pris place dans son véhicule vers la capitale burundaise. République démocratique du Congo, Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York, demande au gouvernement congolais et à la MONUSCO, la mission onusienne sur place, d'arrêter Sylvestre Mouda Mtsumura, le chef des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, opérant dans l'est du pays, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis 3 ans. Les explications d'Anneke Van Woudenbergla, il est chercheuse principale à la division Afrique de Human Rights Watch.
Son groupe continue à commettre des violations de droits de l'homme. Et juste dernièrement, il y a quelques mois, il y avait un directeur d'une école et son fils qui, selon les FDLR, ont donné des informations à des autorités de où se trouve un groupe des FDLR. Et les FDLR avaient décapité ce directeur de l'école et son fils. Ils ont mis les têtes sur des bâtons en vue de tout le monde. Donc c'est cette type d'atrocité qui continue. Le moment est venu que cet monsieur est arrêté. Je suis sûre que le gouvernement congolais et les casques bleus de la MONUSCO ont la capacité d'arrêter Sylvestre Mouda Tsumura. Les choses qui manquent, c'est une stratégie pour identifier où il se trouve et une stratégie pour l'arrêter.
Anneke Van Woudenbergla de Human Rights Watch. À Addis Abeba en Éthiopie, deuxième jour du sommet anti-pauvreté visant à trouver des sources de financement pour le développement des pays les moins avancés, dont la plupart se trouvent en Afrique. La réunion continue jusqu'à jeudi. Au Niger, la Cour d'appel de Niamey a décidé hier que l'affaire de trafic présumé de bébés doit être jugée devant un tribunal correctionnel. Une vingtaine de personnes sont poursuivies, dont l'ancien président du Parlement, Ama Amadou, qui a fui le pays en août 2014. En dénonçant ce qu'il a qualifié de complot politique, Idriss Fall a joint l'un de ses avocats à Niamey, Maître Souley Oumarou.
La première décision, le juge estimait qu'il y avait un certain nombre de conditions qui doivent être réunies avant qu'éventuellement il puisse avoir une saisine du tribunal correctionnel. Ces conditions ne sont pas remplies, il n'était pas compétent pour connaître des faits. Et le président de la République a fait appel contre sa décision. Et nous avons plaidé devant le président de la Cour d'appel de Niamey, qui, comme vous le savez, a énormément de contentieux avec le président Mahamadou depuis un certain nombre d'années. Et nous, nous avons choisi de plaider devant lui que cet affaire qui existe et ces incompréhensions inimitiées qu'il y a entre lui-même et Hamma puissent être soldées. Et nous avons passé la meilleure occasion pour le président de la Cour d'appel de montrer son impartialité, son objectivité dans un dossier qui concerne une personne compétente, son ennemi personnel. Hélas, ça a été un rendez-vous manqué. La Cour d'appel a donc annulé la décision du premier juge. C'est le tribunal correctionnel qui va connaître des faits s'agissant d'un délit. Et nous allons faire le dernier avancement ou alors faire un pouvoir en cassation pour montrer que le juge d'appel s'est grossièrement trompé quant à la prescription des faits sur sa compétence.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer et quelle est la différence donc qu'il soit jugé par un tribunal correctionnel?
La différence, c'est que c'est une infraction un peu spéciale qui n'est pas courante dans la législation des pays et qu'il faut des plaintes préalables de l'État concerné. Il n'y a pas eu de plainte. Ils ont envoyé une équipe d'enquêteurs. Il n'y a eu aucun rapport de police des autorités du Nigeria. Il n'y a aucun juge du Nigeria qui a posé des faits. Ils ont envoyé le commissaire d'appel qui n'a jamais été exécuté. De telle façon qu'il n'y a aucun acte d'instruction ou d'enquête qui a été diligenté par les autorités du Nigeria dans cette affaire. Et nous estimons que le Nigeria ne peut pas se substituer au Nigeria pour connaître des faits qui n'ont pas été commis sur son territoire.
Mais apparemment, vous aviez demandé la levée du mandat d'arrêt contre Hama, mais ça a été refusé aussi.
Le premier ministre s'est déclaré incompétent. On n'avait même pas demandé la levée du mandat d'arrêt. Mais on voulait tester la bonne foi du juge. Et il nous a répondu comme on s'y attendait. L'objectif pourquoi il faut prêter ce mandat d'arrêt, c'est tout simplement pour empêcher qu'à l'échéance de janvier-février 2016, Hama Abadou ne soit pas partant aux élections. Et d'ailleurs, je vous dis que sur la BBC, un membre important du parti Tareya a dit que cette affaire-là dépasse Hama, c'est une affaire d'État. Deuxième élément également très important qu'il faut noter, ce sont les propos de Bazoum et d'Awaga, quand il a dit lui-même qu'il s'agit d'une affaire politique, qu'il s'agit de régler le compte de Hama Abadou.
Maître Souley Oumarou, avocat à Niamey au Niger. La lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest, cause contre la montre en Sierra Leone. Les autorités y ont proclamé hier une alerte sanitaire. Motif, la fuite pendant quelques heures de deux malades d'Ebola de leur unité de traitement, alors que le pays tente d'enrayer la propagation de l'épidémie, répartie à la hausse depuis près de deux mois. Jacques Aristide.
Les deux malades sont une femme de 32 ans et une fille de 8 ans, sans lien de parenté, qui ont réussi à s'échapper ensemble samedi matin de l'unité de traitement d'Ebola où elles étaient prises en charge à Hastings, dans la banlieue de Freetown, la capitale. L'information que rapporte l'AFP provient du Centre national de lutte contre Ebola. Toutes deux ont été retrouvées samedi dans la soirée. Les équipes d'enquête suivaient leur parcours pour identifier le nombre de personnes avec lesquelles elles ont été en contact durant la période de leur évasion. La semaine dernière, la Sierra Leone a annoncé la prolongation pour une durée indéterminée du couvre-feu nocturne en vigueur depuis le 12 juin dans des zones affectées des régions de Cambia et ports locaux dans le nord-ouest du pays.
On se tourne vers l'espace et sa conquête pour évoquer un périple de 9 ans qui va permettre, espèrent les astronomes, de percer les mystères de Pluton aux confins du système solaire. Michel Joseph.
La sonde New Horizons de l'agence spatiale américaine, la NASA, effectue ce mardi un survol historique de Pluton et de ses 5 lunes à seulement 12 500 km de la surface de la microplanète. New Horizons avait été lancé il y a 9 ans pour percer les secrets de Pluton. Des images déjà retransmises ont montré deux faces très différentes de Pluton. Sur l'une, on peut voir le long de l'équateur une série de taches sombres de 480 km de diamètre chacune, dont la superficie est équivalente à celle de l'État du Missouri et qui sont espacées régulièrement. De telles taches n'avaient jamais été observées, ce qui suscite le plus grand intérêt dans l'équipe scientifique de New Horizons, surtout en raison de la régularité remarquable de leur espacement et de leur taille.
Now every day we just see a whole new view of Pluto that's telling us things we never knew before.
Chaque jour, nous découvrons un nouvel aspect de Pluton qui nous dévoile des choses qu'on ignorait. On observe des formes un peu folles en noir et blanc. Nous n'avons aucune idée de ce qu'elles signifient. On voit beaucoup de choses circulaires et on se demande si ce sont des cratères ou non.
On sait déjà que Pluton, découverte en 1930, possède une atmosphère formée d'azote, un système complexe de saisons, des caractéristiques géologiques distinctes et qu'elle est composée principalement de roches et de glace. La planète naine tourne autour du Soleil en 247,7 ans. Avec un diamètre de 2300 km, elle est plus petite que notre Lune et d'une masse 500 fois plus faible que celle de la Terre. Il reste à déterminer si elle possède un océan d'eau sous l'épaisse couche de glace ou encore une atmosphère. Après Pluton, la sonde New Horizons poursuivra son périple pour se rapprocher d'autres objets de la ceinture de Kuiper, vaste amas de débris au-delà de l'orbite de Neptune, datant de la naissance du système solaire il y a 4,6 milliards d'années.
Merci Michel. Et l'accord nucléaire auquel est parvenu l'Iran avec les grandes puissances est un point de départ pour rétablir la confiance, a affirmé aujourd'hui le président iranien Hassan Rouhani dans un discours à la Nation. Merci de nous avoir suivis, Jean-Roger Billon. Lyon. Prochain rendez-vous dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.